J'aimerais aborder un thème ce matin qui est bien présent dans tout le Nouveau Testament, que ce soit dans les évangiles ou dans les épîtres apostoliques, l'amour fraternel. L'amour fraternel. Et il y a tellement de passages, tellement de textes dans la Bible que j'ai eu l'embarras du choix. À la fin, je ne savais pas trop quel passage biblique utiliser ce matin pour parler de l'amour fraternel. Finalement, je me suis décidé pour les écrits de l'apôtre de l'amour, que vous connaissez bien sûr, n'est-ce pas? C'est l'apôtre Jean. Qui mieux que lui pour parler de l'amour fraternel? Jean faisait partie du cercle intime de Jésus-Christ. Il a été associé par le Seigneur à certaines expériences marquantes. C'est lui qui, dans l'évangile qui porte son nom, donc le quatrième évangile, se présente comme le disciple que Jésus aimait. Celui à qui Jésus, sur la croix, a confié sa mère, celui qui avait l'habitude de pencher sa tête sur la poitrine de Jésus, donc ce qui montre qu'il y avait une grande intimité entre lui et le Christ. Mais il est surtout celui qui souligne à plusieurs reprises, que ce soit donc dans les lettres qu'il a écrites ou dans l'évangile qui porte son nom, l'importance pour les chrétiens de s'aimer les uns et les autres d'un amour véritable. Alors, parmi tout ce qu'il a écrit, je vous propose d'abord de lire deux passages qui m'ont profondément interpellé. Le premier, dans la première lettre, au chapitre 2, à partir du verset 7. En Jean chapitre 2, verset 7 jusqu'au verset 11, je lis « Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien. » Celui qui vous avez reçu depuis le début, ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière et il n'a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Le deuxième se trouve toujours dans cette première lettre, au chapitre 4, à partir du verset 7, où Jean dit ceci, « Bien-aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Et dans sa deuxième lettre, Jean rappelle à nouveau ce commandement de nous aimer les uns et les autres. Il ajoute ceci au verset 6. Or, l'amour consiste à vivre conformément à ses commandements. Nous le savons bien, l'être humain est un être de relation. Nous avons été créés pour vivre, pour être en relation les uns avec les autres. Nos relations avec les autres sont, je dirais, fondamentales et sont essentielles si nous voulons jouir d'une bonne santé mentale, émotionnelle et même physique. Or, on le sait bien, ces relations ne sont pas toujours faciles. Quand elles sont harmonieuses, tout va bien, on est content. Elles nous apportent des satisfactions profondes. Mais quand elles sont conflictuelles, alors là, ça va mal. Elles sont source de blessures. Parfois, des blessures même profondes, au point d'empoisonner l'existence, et même parfois au point d'empoisonner la vie d'une église. Il y a plusieurs facteurs, on le sait, qui entrent en jeu dans nos relations et qui rendent parfois difficiles ces relations en famille, avec les collègues de travail, avec les voisins et hélas aussi dans les églises. Les églises sont souvent particulièrement, on pourrait dire, conflictogènes. Pourquoi ? Parce que dans notre désir de servir ensemble le Seigneur, et nous approcher des uns et des autres pour servir l'Église, pour servir le Seigneur dans l'Église, dans notre quête de communion fraternelle, qui est une très bonne chose, la Bible nous encourage, nous oublions souvent de mettre en pratique l'enseignement biblique de base concernant les relations fraternelles. Cet enseignement qui est abondant dans la Bible, on pourrait passer une année à étudier ce que la Bible dit sur les relations fraternelles. Cet enseignement est abondant et précieux. Il concerne les relations et notamment l'enseignement concernant l'amour fraternel qui est très important dans la Bible, enseignement qui occupe une bonne partie des textes bibliques. Jean nous rappelle que la vie chrétienne, la vie en Jésus-Christ, la vie qu'il nous a donnée, a deux dimensions inséparables. La dimension verticale, celle de notre relation avec notre Dieu, notre Père, et une dimension horizontale, celle de nos relations les uns avec les autres, avec notre prochain et avec nos prochains les plus proches, nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Et pour Jean, ces deux dimensions, et non seulement pour Jean, mais aussi pour les apôtres et pour le Christ, ces deux dimensions sont inséparables, elles sont intimement liées. L'une ne va pas sans l'autre. Notre relation avec Dieu, dit Jean, a des implications directes sur nos relations les uns avec les autres. Et il nous rappelle dans ces textes que l'amour est au cœur de la foi. Et si l'amour est au cœur de la foi, l'amour doit être aussi au cœur de nos relations, afin que celles-ci soient épanouissantes, fructueuses, riches et utiles pour chacun de nous. Or, la première chose qui ressort de ces passages, c'est que l'amour fraternel, l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres, n'est pas une option. C'est un ordre de la parole de Dieu, c'est un ordre du Seigneur. C'est un commandement qu'il faut rappeler encore et encore, comme le fait la parole de Dieu. Au chapitre 4, verset 21, il dit, voici quoi ? Une exhortation ? Une bonne idée ? Non, voici le commandement. Voici le commandement que nous avons reçu de lui, que celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Déjà au chapitre 3, verset 23, il avait dit, « Et voici quel est son commandement, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a ordonné. » Comme il nous l'a ordonné. Au chapitre 2, à partir du verset 7, Jean dit, bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, celui que vous avez reçu depuis le début. Et au verset 8, il enchaîne, toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous. L'amour fraternel, sa mise en pratique, est donc un commandement du Seigneur auquel nous, ses disciples, nous les chrétiens, nous devons obéir, tout simplement. Mais est-ce un commandement ancien ou nouveau? Jean le dit lui-même, il s'agit d'un commandement ancien qui est devenu un commandement nouveau. C'est un commandement ancien parce qu'il se trouvait déjà dans l'Ancien Testament, il se trouve dans l'Ancien Testament. La loi divine, dès le début, encourageait chacun à aimer son prochain comme soi-même. C'est écrit dans la loi. Cela veut dire que déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu voulait que l'amour soit l'expression normale dans la vie de tous les jours, entre les hommes, entre les humains. Et puis, c'est un commandement nouveau parce qu'ils l'ont reçu au commencement de leur vie chrétienne. Et surtout parce qu'en Jésus-Christ, ce commandement prend une dimension nouvelle. D'ailleurs, dans son évangile, quatrième évangile, Jean rapporte les paroles de Jésus transmises à ses disciples concernant l'amour fraternel, au chapitre 13, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et au chapitre 15, verset 22, « Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. » Comme moi-même je vous ai aimé. Aimer comme Jésus-Christ nous a aimés. Voilà ce qui est nouveau dans ce commandement. N'oublions pas que Jésus prononce ces paroles après avoir lavé les pieds des disciples et juste quelques heures avant de donner sa vie sur la croix en sacrifice pour les péchés de l'humanité tout entière. C'est un commandement nouveau qui vient donc du fait que nous avons été aimés, rachetés, sauvés par Jésus-Christ pour vivre une vie qui a une autre dimension, une vie qui est vécue dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Désormais, notre amour, où nous devons aimer, et notre amour doit être inspiré par l'amour du Christ pour nous. Amour, donc, don de soi, amour qui s'exprime à travers le sacrifice de soi et le service. Voilà pourquoi ce commandement prend donc une dimension, ce commandement ancien prend une dimension toute nouvelle en Jésus-Christ. Mais l'apôtre Jean ne se contente pas de rappeler qu'il s'agit d'un commandement du Seigneur, qu'il s'agit d'un commandement ancien devenu nouveau, grâce à la nouvelle dimension donc que le Christ lui donne. Il ne se contente pas de rappeler qu'en tant que disciple du Christ, nous devons obéir à ce commandement. C'est un commandement, c'est un ordre de notre Maître et Seigneur. Il nous apporte aussi quelques arguments pour nous expliquer pourquoi l'amour fraternel fait partie de l'identité chrétienne. Pourquoi l'amour fraternel doit être bien présent au milieu des chrétiens. Et Jean va établir au moins trois critères, ou si vous voulez, trois indicateurs, qui nous permettent finalement d'analyser notre foi à la lumière de l'Évangile et de la parole de Dieu. Pour dire autrement, qui nous permettent de savoir si nous sommes chrétiens ou pas. Il part de deux définitions très courtes qu'il donne de Dieu pour expliquer pourquoi il est impossible de se dire chrétien si on n'aime pas ses frères et sœurs. La première définition constitue le thème principal des deux premiers chapitres de sa lettre. Dieu est lumière, dit-il, verset 5 du premier chapitre. Dieu est lumière. La deuxième définition, c'est le thème des chapitres 3 et 4. Dieu est amour. Dieu est amour. Et le raisonnement de l'apôtre Jean est le suivant. Dieu est lumière, donc si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire en Dieu qui est la lumière, il nous est impossible de marcher dans les ténèbres, c'est-à-dire dans les œuvres du diable, dans le péché. Au chapitre 1, verset 6, il dit « Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. » Nous l'avons déjà entendu ce matin, l'Évangile nous a arrachés aux ténèbres, aux œuvres de ténèbres dans lesquelles nous vivions avant de connaître l'Évangile, avant de connaître Jésus-Christ. Avant de le connaître comme notre Sauveur et comme Seigneur de nos vies. L'Évangile nous a fait passer des ténèbres à la merveilleuse lumière du Seigneur. Cet Évangile de lumière nous a permis, comme dit l'apôtre Paul, de nous dépouiller de notre ancienne nature, de notre ancienne vie, de nous débarrasser de cette vie de péché qu'on menait avant de connaître le Christ. Cet Évangile nous a poussés et nous pousse toujours à nous accrocher toujours plus à la vérité de la parole de Dieu, à l'Évangile que nous avons reçu. Voilà donc le premier indicateur que l'apôtre Jean nous donne, pourrait dire l'indicateur moral, celui d'un comportement sanctifié par le Seigneur. Une vie vécue dans le péché est incompatible avec la vie chrétienne. Le deuxième indicateur est, on pourrait dire, l'indicateur social. Dieu est lumière, et si nous marchons dans la lumière, il nous est impossible, dit Jean, de ne pas vivre en communion les uns avec les autres. Au verset 7 du premier chapitre, il dit « Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Nous sommes en communion les uns avec les autres. » Et le sang du Christ, de Jésus-Christ son Fils, nous purifie de tout péché. Mais il va encore plus loin, il dit, Dieu est lumière, donc, chapitre 2, à partir du verset 9, si nous prétendons vivre dans la lumière, en Dieu qui est la lumière, il nous est impossible de ne pas aimer notre frère et notre sœur, et moins encore de le haïr. Dans ce chapitre 2, verset 9 et verset 11, il dit « Celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. » Est encore dans les ténèbres. « Celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. » On dit souvent que c'est l'amour qui rend aveugle, en tout cas la sagesse populaire le dit, n'est-ce pas, l'amour rend aveugle. Jean ici dit le contraire, ce sont les ténèbres qui nous rendent aveugles. Ou pour être plus précis, il dit que c'est la haine qui nous rend aveugles, c'est la haine qui nous empêche de voir réalité. Lorsque nous haïssons quelqu'un, qu'est-ce qui arrive? Nous interprétons mal ses paroles, ces actes, parfois même ces silences, n'est-ce pas? Nous donnons une interprétation au silence de quelqu'un. Le vrai amour nous ouvre les yeux et nous garde dans la vérité de l'Évangile, dans la vérité de la parole de Dieu. D'ailleurs, au chapitre 4, l'apôtre Jean, après avoir affirmé que Dieu est amour, il nous encourage à vivre dans l'amour. À vivre dans l'amour. Car au verset 16, il dit « Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Et il ajoute au verset 20 « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. » Voilà le deuxième indicateur, l'indicateur social, ou plus précisément l'indicateur de l'amour fraternel. À la lumière de l'Évangile, il n'est donc pas possible pour un chrétien qui a reçu la lumière et l'amour de Dieu dans son cœur, dans sa vie, de ne pas aimer ses frères et sœurs, et moins encore d'avoir la haine comme mode de vie. Le troisième indicateur qu'il mentionne, ce sont nos affirmations de foi, nos convictions chrétiennes, nos confessions de foi qui doivent être conformes à la vérité de l'Évangile tel qu'il a été annoncé par le Christ et par les apôtres. Ou pour le dire comme l'apôtre Paul, des affirmations de foi qui soient conformes à la saine doctrine. À la saine doctrine. C'est donc l'indicateur doctrinal, et notamment, dit l'apôtre Jean, la foi au Christ incarné. Au Christ incarné. Au chapitre 2, verset 22, parmi d'autres choses qu'il dit sur les confessions de foi, qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Bref, pour marcher dans la lumière et dans l'amour de Dieu, le chrétien doit se débarrasser de sa vie passée, de ses péchés. Il doit s'accrocher à la vérité de la parole de Dieu telle qu'elle est là, n'est-ce pas ? Dans la Bible, le chrétien doit vivre dans la pratique de l'amour fraternel. Voilà les trois indicateurs qui nous permettent d'examiner notre foi à la lumière de l'Évangile, à la lumière de la parole de Dieu, et de savoir où nous en sommes par rapport au Seigneur, par rapport à l'Évangile. Mais comme nous venons de voir, et pour revenir à notre thème de ce matin, c'est l'amour fraternel, pour l'apôtre Jean, aimer les frères est équivalent à être en Dieu, à vivre en lui, à marcher dans sa lumière et dans son amour. Au chapitre 3, verset 34, il dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. » Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Ici, la mort, comme tout à l'heure, les ténèbres, se rapporte donc au diable, au domaine du diable, n'est-ce pas, au règne du diable. Et on sait bien que ces choses existent dans nos sociétés, dans le monde, n'est-ce pas? Le diable est bien présent avec la mort et les ténèbres. On peut donc affirmer que l'une des grandes évidences de notre salut est l'amour pour nos frères et sœurs, l'amour fraternel. C'est lui, en fait, qui authentifie notre foi. Selon le Christ, l'amour les uns pour les autres est la particularité, la marque distinctive de tous ses disciples, de tous les véritables chrétiens. Le signe que nous sommes véritablement au Seigneur, que nous lui appartenons, que nous nous sommes réconciliés avec Dieu. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'obéissance à ce commandement est la preuve que l'œuvre de l'Évangile en nous a vraiment bouleversé notre vie, a transformé nos vies. Elle nous a réconciliés non seulement avec Dieu, mais avec nous-mêmes et avec nos semblables. Dans la première Église, aux temps apostoliques, même si dans les lettres apostoliques, on voit que parfois ça s'est gâté un petit peu, les premiers chrétiens ont vécu dans l'amour les uns pour les autres. Ils ont mis en pratique ce commandement du Seigneur dans la vie de leur communauté, montrant par là qu'ils étaient vraiment disciples du Christ, qu'ils le suivaient. Il nous est dit dans les Actes des Apôtres que tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. L'amour fraternel les a poussés à la solidarité. À la solidarité. Ce serait terrible que dans notre église ou que dans nos églises, il y a des gens qui passent par la famine et qui passent par des besoins. C'est impossible. Parmi les chrétiens, c'est impossible. C'est impossible. Nous avons un devoir de solidarité parce que nous vivons dans l'amour fraternel. Tertullien, au IIIe siècle, rapporte que les Romains pensaient des chrétiens ce que les Romains pensaient des chrétiens. Ils disaient, regardez, s'écriait-il avec moquerie, avec mépris, comme ces chrétiens s'aiment. Regardez comme s'ils sont prêts à mourir les uns pour les autres. Et quand la peste a commencé à dévaster tout l'Empire au IIIe siècle, n'est-ce pas? Devinez qui est venu aider les malades, qui est venu aider la population en train de mourir. Les seuls qui l'ont fait, les chrétiens. Ce n'est pas étonnant que le christianisme se soit répandu aussi vite, n'est-ce pas, dans le premier siècle, aussi vite dans les premiers siècles. Donc, l'amour que les chrétiens avaient les uns pour les autres attirait le peuple, attirait les gens à l'évangile, attirait les gens du monde à vouloir connaître ce message de l'évangile qui avait transformé ces gens-là. Maintenant, pour terminer, nous qui avons les pieds sur terre, nous sommes peut-être en train de nous dire, mais ce n'est pas si facile que ça. Nous connaissons tous des difficultés liées à nos relations, même en famille, n'est-ce pas? Même au sein de nos familles, d'autant plus dans l'Église, où ce n'est pas toujours facile. Il faut le dire avec honnêteté, il y a des frères et des sœurs que nous apprécions plus que d'autres. Et d'autres avec lesquels nous avons moins d'affinités, ou pour ne pas dire plus de mal à avoir des relations saines. Et puis, il y a tous ceux qui nous sont indifférents. Mais ici, dans l'enseignement biblique de Jean, concernant l'amour fraternel, on voit bien qu'il n'y a pas de demi-mesure. Il nous est demandé d'aimer nos frères et sœurs, point. Il ne dit pas, oui, celui-là, tu peux. Hein. Non, non, aimez vos frères et sœurs. Et même ceux qui sont difficiles, donc. Mais alors, c'est quoi cet amour-là? Bon, aujourd'hui, on n'a pas le temps avance, on n'a pas le temps d'expliquer ce que c'est que cet amour, l'amour de Dieu en nous, l'amour, point de vue biblique. Sans doute que Eric et les autres prédicateurs auront le temps de le faire, mais Jean ne donne pas la définition de l'amour. Il se réfère tout simplement à l'amour de Dieu pour nous, pour nous indiquer ce que c'est que l'amour, cet amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Permettez-moi de lire encore chapitre 4, le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu, il connaît Dieu. Dieu est amour. Et ensuite, il dit, comment cet amour se manifeste? Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Il l'a envoyé comme victime expiatoire pour nos péchés. En fait, la source de cet amour, c'est Dieu. Dieu est la source de notre amour fraternel, cet amour avec lequel nous devons nous aimer les uns les autres. Il nous a aimés, dit l'apôtre Jean, au point de donner son Fils unique en sacrifice pour les péchés, pour nos péchés, pour les péchés de l'humanité. Jésus-Christ est donc l'exemple de ce qu'aimer veut dire. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, dans sa mort, est un exemple suprême de l'amour. Cet amour n'est pas une réponse à un sentiment quelconque, à une émotion, mais on le voit bien, c'est un choix, c'est un acte, c'est une mise en action de notre volonté, c'est une obéissance au commandement de l'amour. Au chapitre 3, verset 16, Jean donne encore une illustration de ce qu'aimer veut dire. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à des belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Qu'il s'accomplisse par des actes accomplis dans la vérité. Cet amour est donc un amour qui se traduit d'une manière concrète, par des actes accomplis sans hypocrisie. un amour qui implique des sacrifices importants. À nous de savoir quels sont les sacrifices que nous pouvons faire pour tel ou tel frère dans la communauté. Un amour qui abandonne ses privilèges, un amour qui se donne, un amour qui sert, un amour patient, un amour bon, doux, humble, un amour qui place les autres avant ses propres intérêts. Je suis en train de citer des choses qui sont dans la Bible. Un amour qui pardonne tout, qui ne soupçonne pas le mal. Un amour qui nous fait abandonner toutes ces choses qui appartiennent aux ténèbres, comme on l'a dit tout à l'heure. Nos colères, nos brouilles, nos conflits qui naissent souvent de malentendus et très souvent d'un manque notoire de bienveillance. Cet amour-là est l'amour que Dieu met dans nos cœurs par son Saint-Esprit, nous dit l'apôtre Paul. Alors que notre vie entière et la vie de notre Église soient orientées par ce commandement, aimer nos frères et sœurs comme le Christ nous a aimés. Que notre vie soit tendue vers cet amour les uns pour les autres, car cela est le signe, avec bien sûr les deux autres, notre vie sanctifiée par le Saint-Esprit et nos affirmations de foi enracinées dans l'Évangile, que nous sommes réellement des enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, et que nous demeurons en lui et que lui demeure en nous. Sachons que si nous décidons d'obéir à ce commandement du Seigneur, de nous aimer les uns et les autres, Dieu est fidèle pour faire croître cet amour en nous par son Saint-Esprit. Mon désir, c'est que les gens de cette ville de Clermont-Ferrand puissent dire de nous ici à l'église baptiste, regardez comment ils s'aiment, regardez comme ils s'aiment, comme ces chrétiens s'aiment. C'est à leur amour les uns pour les autres qu'on reconnaît que vous êtes mes disciples. Voilà ce que le Christ nous a dit.